RMC Intégral Tour, Céline Géraud.
On est de retour et on est bien. 19h06, vous êtes sur RMC avant de retrouver bien sûr Christophe Cessieux et Cyril Guimard pour cette 7e étape à la planche des belles filles, le journal des sports.
RMC Sport.
Martial Fernandez est de retour en mode express. Je ne sais pas s'il a mis les pneus foulouettes.
Les pneus pluie.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a une info. RMC Sport, Didier Deschamps accepte d'entamer des négociations avec la Fédération française.
Un dossier sur le point d'aboutir. Les représentants des deux parties, le cabinet Clifford Chance pour la Fédération et maître Carlo Alberto Broussa pour Deschamps, sont en train en ce moment même d'essayer de trouver un accord. Volonté commune donc d'aboutir. L'envie pour l'ancien entraîneur de l'OM de devenir sélectionneur de l'équipe de France. Si les deux parties s'entendent rapidement, le contrat pourrait même être signé d'ici demain soir. Pour Roland Courbis, membre de la Dream Team RMC Sport, il fallait s'y attendre.
C'est pas une surprise. Donc en plus, on sait que Didier Deschamps est très proche de Laurent Blanc. Ça me paraît être une très bonne chose pour continuer un petit peu dans les mêmes idées, en améliorant ce qui n'a pas marché. Et ça, je pense que, vu qu'ils sont très très proches, Laurent Blanc peut aider Didier Deschamps. Mais après, bon, chacun a sa façon de voir les choses. Je vais pas faire un jeu de mots facile, mais bon, quand on sait que des fois on dit bonnet blanc, blanc bonnet, pour moi, Deschamps blanc, blanc Deschamps, c'est pareil. Hein. Je serais plutôt surpris que Didier ne tombe pas d'accord avec un nouvel homme.
Roland Courbis, impayable. En
dans
attendant, la réaction de Manuel Amoros, notamment, hein, dans l'after foot avec Florent Gautreau, qui vous fera le plein complet, hein, sur cet accord probable, hein, très bien engagé en tout cas, pour Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Allez, on parle du Tour, un vainqueur d'étape britannique sur le Tour aujourd'hui.
Mais pas celui qu'on attendait. Christopher Froome s'impose à la planche des belles filles en haut de cette montée inédite, avec à l'arrivée 2 secondes d'avance sur Cadel Evans et Bradley Wiggins. Nibali lui perd 7 secondes. Pierre Roland, premier français, et 7e à 46 secondes de Froome, le leader de l'équipe Europcar, au micro de Pierre-Yves Leroux. Roland a su s'accrocher jusqu'au bout.
C'est une montée très particulière parce que c'est très court et très raide. Et moi, on le sait que je suis grand et assez lourd pour un grimpeur, donc je préfère quand même quand c'est un peu plus long. Mais voilà, comme je l'ai dit, il faut faire avec le parcours qui est proposé. Et vu la pente et la montée, je suis vraiment satisfait de l'ascension que j'ai faite. Voilà.
Au classement général, Bradley Wiggins endosse le premier maillot jaune de sa carrière avec 10 secondes d'avance sur Cadel Evans et 16 sur l'Italien Nibali. Les trois favoris donc déjà aux trois premières places après 8 jours de course. Demain, 8e étape entre Belfort et Porrentruy.
De la F1 maintenant, qualification du Grand Prix de Grande-Bretagne et une séance en deux temps cet après-midi à Silverstone, mouvementée.
Des glissades comme s'il en pleuvait, une piste gorgée d'eau et impraticable pendant près d'une heure et demie. Il a fallu renvoyer toutes les voitures au stand en milieu de séance et après le retour au calme, Romain Grosjean est parti à la faute et s'élancera demain seulement en 9e position. Le plus rapide, Fernando Alonso, passé au milieu des grosses gouttes. En première ligne, il sera aux côtés de Weber. En deuxième, Schumacher et Vettel. Et puis, évidemment, les Français sont beaucoup plus loin. En dernière ligne, Charles Pic et Jean-Éric Vergne. Demain, la piste de Silverstone sera sans doute très arrosée. On détaillera tout ça, évidemment, tout au long avant le Grand Prix demain. Et puis, le tennis du côté de Wimbledon, Serena Williams qui s'impose. Il a plu, le match a été interrompu et puis finalement les deux joueuses ont joué à nouveau. 5e trophée à Wimbledon pour l'américaine. C'est le 14e tournoi du Grand Chelem. Elle s'impose en 3 manches face à la polonaise Agnieszka Radwanska.
Et pendant ce temps-là, Orléans, l'équipe de France masculine de basketball joue un match de préparation pour les Jeux. Et ça se passe comment?
Ça se passe pas très bien en première période puisque les Français sont menés. Mais la bonne nouvelle, Rodolphe Massé, vous qui êtes du côté d'Orléans, c'est que Tony Parker a démarré la rencontre.
Oui, Tony Parker a joué les 5 premières minutes et 35 secondes de ce match. Le temps pour lui d'inscrire 2 lancers francs, de rater 2 tirs également et de arborer ses nouvelles lunettes avec lesquelles il jouera jusqu'aux Jeux Olympiques. Alors, le 3e quart-temps vient de débuter, la 2e mi-temps vient de débuter depuis un peu plus d'une minute, toujours à l'avantage de la Grande-Bretagne qui mène désormais au score 43 à 29, 14 points d'avance. Ça va un petit peu mieux malgré l'écart en faveur des Britanniques car les Français ont compté jusqu'à 20 points de retard avec un passage à vide. Pendant 7 minutes, ils n'ont pas inscrit le moindre panier. Tony Parker est sur le banc pour le moment. moment, c'est Yannick Bocolo qui mène le jeu français, associé pour la base arrière avec Nando Decolo. Les Britanniques qui font ça de la course en tête. Mais là, vu ce qui vient de se passer en début de troisième quart-temps, on peut imaginer que les Français vont réagir et ne vont pas laisser les Britanniques comme ça faire la course en tête.
Le score exact, Rodolphe ?
44 à 29 à présent, puisque Luol Deng, la star britannique, le joueur qui évolue aux Bulls de Chicago avec Joachim Noah notamment, et sur la ligne des lancers francs, il réussit son deuxième lancer franc, donc 45 à 29 à présent pour la Grande-Bretagne.
Et on vous retrouve tout au long de la soirée, Rodolphe Massé, en direct d'Orléans pour ce match, tout à l'heure également dans Before London. Justement, on est à J-20, 20 jours du coup d'envoi des Jeux, sélection qui continue à tomber. Aujourd'hui, c'était le hand masculin.
Et confiance aux experts pour le sélectionneur Claude Onesta, il a choisi l'expérience dans sa liste des 14. Bertrand Gilles et Mickaël Guigou sont bien là, apparemment bien rétablis de leurs anciennes blessures. Onesta fait confiance à ses hommes de base. La prime aux anciens, Claude Onesta assume.
Est-ce que aujourd'hui, préparer l'avenir, c'est envoyer au feu quelqu'un qui va se brûler? Et c'est Icar, hein. Si au lieu de partir avec sa cire, il avait réfléchi un peu plus, il ne serait pas cassé la gueule. Quand on a la chance d'avoir des vieux comme je les ai moi, je peux vous assurer que c'est pas une charge. C'est franchement un avantage. Et quand les vieux sont ceux qui traînent la troupe vers le sommet, sont ceux qui montrent le plus d'exigence, le plus d'engagement et le plus de performance, je peux vous assurer que c'est pas moi, je fais pas l'équipe en regardant la carte d'identité.
Claude Onesta au micro de Nicolas Paolorsi. Pas de passe droit en athlétisme non plus. Christine Aron n'ira pas au jeu, même pas en relais 4x100 mètres où elle aurait pu être sélectionnée. Pas de repêchage pour la triple sauteuse Françoise Mbango. Il y aura donc 52 athlètes français en lice au stade olympique. Christophe Lemaître est bien sûr engagé. Sur le 100 et le 200, il devrait choisir une des deux distances après avoir couru un 200 mètres dans une semaine du côté de Londres. Et puis l'Open EDF de natation, ça vient de se terminer pour Laure Manaudou, 50 mètres d'eau. Elle a déçu la Française du côté de la Croix-Catelan. Elle prend la cinquième place d'une course remportée par la Russe Zoeva. 1 minute, 1 seconde et 16 centièmes pour Manaudou. C'est tout de même à 1 seconde de son meilleur chrono de la saison. Et puis, on vous rappelle donc l'information principale de cet après-midi. Didier Deschamps qui accepte d'entamer des négociations avec la Fédération Française de Football. Les deux représentants des deux parties sont en ce moment même en train de négocier pour les termes du contrat et évidemment le staff autour de Didier Deschamps qui prendra sans doute la succession de Laurent Blanc.
Merci Martial. À tout à l'heure, à bientôt, à demain.
À demain.
Ah ouais, une info RMC Sport et tous les détails bien sûr dans l'After Foot avec Florent Gautreau, la réaction notamment de Manuel Amoros à propos de cette probable arrivée de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Allez, c'est parti, l'intégral tour. On file tout de suite du côté de la planche des belles filles. Retrouvez des beaux gosses, bien sûr. Cyril Guimard et Christophe Cessieux. Salut Christophe, vous êtes mon beau gosse préféré quand même aussi.
Oh là là, elle est trop gentille cette Céline. Merci Céline, ça fait plaisir. À tout à l'heure, on se retrouve tout à l'heure à partir de 20h pour Before London, évidemment, puisqu'on se rapproche des Jeux Olympiques qui se dérouleront, tiens, à Londres. Les Britanniques sont déjà en forme avant le début des Jeux Olympiques de Londres. En tous les cas, ils sont en forme sur ce Tour de France, puisqu'on vous le rappelle, Chris Froome, et non pas From, a remporté l'étape aujourd'hui et son leader Bradley Wiggins s'est emparé du maillot jaune. On y revient évidemment dans un instant. On s'intéressera également aux Français, notamment à Pierre Roland qui est toujours en vie malgré une chute hier. Aujourd'hui, il est le Français qui termine le mieux avec 46 secondes de retard. On va y arriver. On se retrouve en tous les cas dans un instant pour l'intégral tour. À tout de suite.
RMC Intégral Tour. Christophe Cessieux.
Bonsoir à tous. L'Intégral Tour se poursuit sur l'antenne d'RMC jusqu'à 20h. C'est l'heure des débats, c'est l'heure du débrief et il y en a des choses. Il y en a des choses à dire à l'issue de la première étape de montagne qui a donc vu tout à l'heure le Britannique Chris Froome remporter l'étape à l'arrivée de la planche des belles filles. Chris Froome, coéquipier modèle d'un certain Bradley Wiggins. On va évidemment revenir sur la domination des Sky qui sont au 7e ciel ce soir puisqu'ils ont écrasé la course, écrasé la concurrence, relégué la plupart des adversaires de Wiggins très loin au général, tous peut-être sauf Evans et Nibali, mais qui n'ont pas pu attaquer aujourd'hui, qui n'ont pas pu mettre à mal la domination des Britanniques. Ils sont là avec moi dans notre petit camion au sommet de la planche des belles filles. Je vais nommer évidemment Luc Leblanc qui est en face de moi. Bonjour Luc.
Bonsoir à tous.
Et Cyril Guimard qui est également là, notre druide préféré. récupéré, en pleine forme. Il a noirci du papier là. Il y a de l'analyse. Il y a de la tonne d'analyse là. Hein.
Non, pas spécialement. Non, j'essaye de réapprendre à écrire.
Oui, c'est pas évident. Voilà. C'est pas évident.
Hein, non, c'est, avec l'âge, on perd vite. Hein.
Voilà, il y en a un autre qui n'a pas perdu non plus. C'est Thierry Bourguignon, évidemment, qui est avec nous comme tous les soirs. Salut Thierry.
Bonsoir messieurs.
Bon, alors, que peut-on dire de cette étape? Quel bilan tirer après cette première étape de montagne en plein? Plus exactement, cette course de côte, comme tu aimais à le répéter tout à l'heure pendant le direct, Cyril, c'était pas vraiment une étape de montagne, c'était une côte finale, mais sacrée côte quand même.
Mais qu'elle a fait mal.
Et qu'elle a fait mal cette côte.
Oh oui, elle a fait mal.
On va peut-être essayer de récapituler les noms de ceux qui ont perdu peut-être toute chance aujourd'hui de remporter le Tour de France, et ils sont nombreux. Tous les leaders attendus. Cyril, tu as peut-être les noms. Samuel Chantzou.
Oui, justement, j'ai essayé d'écrire les noms.
C'est... D'accord, bah voilà.
J'avais un stylo qui marchait.
Tu peux nous donner les noms. Alors justement, pour faire le bilan.
Là, il y a ceux qui sont battus par KO. Alors côté français, on a Jérôme Coppel qui a perdu 3 minutes, on a Jean-Christophe Perrault qui a perdu plus de 4 minutes, et puis pour les autres, on a Leifheimer, 3 minutes 11, Basso, 2,53, Gessing, 2,53, Frank Schleck, 1,09, Valverde, 2,19, Vinokourov, 2,17, Vandenbroek, qui lui malheureusement a eu un ennui mécanique avant le pied de
Valverde aussi, hein, Cyril.
Et qui a donc été retardé. Donc ça fait 1,52, Samuel Sanchez 1,31. Alors c'est vrai que Valverde a eu aussi une crevaison, il est reparti assez rapidement, mais dans l'ascension, il a perdu beaucoup de temps également. Ouais. Et puis, j'ai envie de dire, il y a ceux qui ont un petit peu surnagé. Il y a Cadel Evans et Nibali. Donc, et Taramae, le petit nouveau qui arrive là dans le classement de ce Tour de France. Donc voilà ceux qui ont réussi à rester dans le train de la Sky, le train noir de la Sky. Et puis Fromm qui lui écrase tout. Et j'ai envie de dire ce soir, et c'est peut-être la grande leçon de cette étape, c'est que Cadel Evans ce soir est littéralement assommé. Par les Sky et par la puissance de l'équipe Sky.
Évidemment, ils ont montré qu'ils étaient les cadors. Ils le montrent comme ça depuis le début de la saison. Mais de là à voir Chris Froome battre tout le monde, et notamment Evans, Nibali et les autres, c'était quand même surprenant. Thierry, tu as été surpris de voir autant de leaders en difficulté sur à peine 6 kilomètres aujourd'hui.
Ah, énormément, puisque quand on les a vus rouler... avant la bosse, on s'attendait absolument pas à ce qu'ils continuent dans la bosse, et ils ont jamais lâché prise, et c'est impressionnant. Ils avaient mis en place une stratégie, se sont tenus à cette stratégie, et Fromm en a remis sur le sommet, et il a contré Evans sur la fin, donc il en avait même gardé. C'est franchement le coup de massue sur le Tour de France. Je pense que Evans a pris cher au niveau moral, parce que c'est surtout au niveau moral, puisque à la pédale ils l'ont pas lâché, mais il se contentait de suivre. Il a essayé de gagner l'étape, ça n'a pas suffi. Ouais. Nibali nous a de nouveau un peu déçus, comme tous les Italiens qui arrivent avec de grosses prétentions sur le Tour, et à chaque fois on est un peu déçus. Bon, c'est la première, c'est une course de côte, la montagne ne fait que commencer.
Ouais, Lucho, tu penses que la montagne ne fait que commencer, ou que le Tour est déjà écrasé et va être écrasé pendant les 15 jours
qui viennent? Je ne considère pas l'étape d'aujourd'hui comme une étape de montagne.
Oui, une course de côte
avec une arrivée finale, 7 km avec des forts pourcentages qui ne sont peut-être pas faits pour un Cadel Evans, qui préfère certainement...
Avant l'arrivée, on disait le contraire, on disait que c'était fait pour Evans et non pas pour Wiggins. Et là, après l'étape, on dit que c'était pas fait pour Evans. Faudrait s'accorder.
Non, mais attends, laisse-moi continuer mon développement, mon analyse. Non, je pense que l'arrivée d'aujourd'hui, c'est fait pour des punchers, des vrais purs grimpeurs. C'est-à-dire des vrais purs grimpeurs qui attaquent, qui font tout par coup. Là aujourd'hui, on a vu Wiggins faire monter sa troupe au rythme, à un rythme très élevé, parce qu'il ne supporte pas les à-coups. Evans, c'est la même chose. Tu regardes l'année dernière, Evans ne supportait pas les à-coups. C'était tout un rythme effréné, sans à-coups. Et là, bon, c'était plus adapté aux purs et vrais grimpeurs aujourd'hui. Là, maintenant, on va arriver bientôt à la 10e étape, hein, où on va arriver donc à Bellegarde sur Valserine, où là, on rentre quand même dans le vif du sujet avec des longs cols, hein, le col du Grand Colombier. Donc là, c'est des cols quand même qui font entre 15 et 20 kilomètres.
Mais ça, c'est
pas tout de suite, ça. Bientôt, bientôt, la semaine prochaine. Ouais. Donc ça va arriver. Enfin,
ceci dit, il y a des écarts.
Oui, là, ils sont enregistrés. Il y a des écarts qui sont enregistrés, mais il n'y a pas de perte de temps entre Evans et puis Wiggins. Et il faut pas dire non plus n'importe quoi. Evans n'a pas reçu un gros massu sur la tête aujourd'hui. Je veux dire, attention.
Mais non,
on en reparlera peut-être. Mais je veux dire, ne comparons pas cette étape-là avec des étapes dans les Alpes et des étapes dans les Pyrénées.
En tous les cas,
ce n'est pas du tout la même façon de courir.
Simplement que sur le Dauphiné, ils ont fait la même chose. Quand Evans s'attaquait, ils ne se sont jamais affolés. Ils ont l'équipe la plus forte. Donc ils tournent, ils se contentent de gérer la chose et au moment où ils veulent, ils reviennent.
Ça vous rappelle quoi, vous qui avez déjà vu au Tour de France?
Le train bleu, le train postal, non? Un train bleu qui est transformé en train noir.
Attention, c'est qu'elle est
là. Laisse Thierry terminer là-dessus, ouais, sur la comparaison. Le train bleu, c'était évidemment l'équipe de Lance Armstrong.
Moi, j'espère qu'une chose, c'est qu'on trouve des failles à ce train noir. Parce que franchement, train noir pourrait se transformer en enterrement.
Les failles peuvent éventuellement se trouver dans les descentes.
Parce qu'il y a quand même des arrivées après des longs sommets.
Il y a des longues descentes avant les arrivées, certaines arrivées, ce qui peut peut-être faire bonheur de Evans ou de Nibali, qui sont très bons descendeurs.
Le Tcho, il faut des descentes vertigineuses. Avec de la technique.
Avec de la pluie. Mais de toute façon, on peut gagner partout. On peut le gagner partout, aussi bien dans les montées que dans les descentes.
Il y a quelques-uns qui l'ont perdu aujourd'hui, sur une course de côte.
Ouais. Tiens, on va prendre Vincent qui nous appelle au 32-16. Vous pouvez le faire également. Venez poser vos questions. Venez nous donner vos avis sur cette course. Vincent est là avec nous. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Christophe. Bonsoir la Dream Team.
Alors Vincent, si tu voulais intervenir sur Chris Froome plus exactement. Ah, il y a deux os.
Il y a des gens qui font du vélo autour de la table, je pense. Quand on fait un tempo, il a fait un bon tempo parce qu'il a fait quand même sauter du monde. Ce qui est impressionnant, c'est de relancer comme il a relancé. Je pense que Bourgui, il aurait bien aimé avoir ce giclette dans les bosses.
Ah oui, il n'y a pas que Bourgui. Hein. Je pense qu'il y a un peloton, il y a même tous les anciens, avec une giclette comme ça, monter aussi vite et en retrouver un peu de carburant pour faire le sprint final, dans un pourcentage à 20%, c'est impressionnant. Impressionnant. Je suis d'accord.
On s'arrêtera à impressionnant. On n'ira pas plus loin.
On a vu la même chose l'an dernier sur le Tour d'Espagne.
Exactement.
Non, c'est pas d'aujourd'hui.
C'est pas un inconnu. C'est quelqu'un qui a fait le Tour d'Espagne.
Il peut pas être inconnu. Il aurait dû logiquement gagner le Tour d'Espagne.
Oui. Donc, ce qui est impressionnant, c'est que Evans, faut pas oublier, parce que Luc l'oublie, c'est qu'il est tout seul. C'est-à-dire qu'il est seulé. Il a pas d'équipe pour tenir Wiggins. Et alors moi, je suis la Sky. Moi, je me considère avec deux leaders aujourd'hui. Ouais. Et avec le train qu'ils ont en plus, ils peuvent se permettre d'avoir deux leaders et puis d'isoler Evans sur une table de montagne. Hein. Ça va être décevant et j'ai peur que...
Peur, c'est tout à fait le mot, parce qu'on n'a pas tout dit, mais on va tout dire. C'est que si vous regardez le classement de l'étape, celui qui a roulé au pied, qui a tout fait sauter sur les premiers kilomètres, c'est Richie Porte. Il termine quand même 14e à 1:24, c'est-à-dire à une quinzaine de secondes, à une quinzaine de secondes seulement, 13e, oui, à une quinzaine de secondes, même pas 6-7 secondes de Schleck et Michael Rogers qui termine 10 secondes derrière. Ils sont quatre dans les 14 premiers.
Alors qu'ils ont roulé, c'est
eux qui ont tout fait sauter au départ. Fromm a continué ensuite. Bon, je pense que si Cadel Evans n'avait pas fait une erreur de choix dans ses braquets, je pense qu'il aurait pu rester au contact de Christopher Fromm et que Bradley Wiggins aurait vraisemblablement perdu 3 ou 4 secondes. Mais ce que je comprends pas, c'est comment il est possible que Cadel Evans fasse une erreur de braquet.
Je pense pas que ce soit une erreur.
Il sait qu'il va falloir qu'il ait au moins 25 dents Lorient pour le final. Et là, il avait un braquet, il pouvait plus l'emmener. Et Fromm est parti relativement facilement avec deux dents de moins.
Fromm qui dit qu'il a été surpris justement que Evans ne pousse pas un peu plus. Hein. Il l'a vu revenir à sa hauteur. Et à ce moment-là, Fromm a attaqué
il avait beaucoup trop gros. Il pouvait pas suivre. Non. Il avait beaucoup trop gros et il avait pas de dents de réserve en plus.
Alors Vincent, il a toujours été comme ça. Hein. Il a toujours emmené un braquet d'enfer.
Ouais, mais là t'es obligé d'enlever les dents.
On est allé voir
on est allé voir
Thierry avant l'arrivée tout à l'heure dans la pente. On avait du mal à tenir debout dans la pente tellement c'était raide par moment. Hein. C'était vraiment impressionnant. Vincent a soulevé également un autre sujet, à savoir que la Sky se retrouve avec deux leaders.
Non, il n'y a pas de leader.
Alors, il n'y a pas de leader.
Autour d'Espagne, il n'y avait pas de leader. Fromm était au service de Wiggins, même si Wiggins était moins fort.
D'accord. D'ailleurs, je crois que Christopher Froome a démenti tout à l'heure, parce qu'on lui a posé la question de savoir s'il pouvait éventuellement jouer sa propre carte sur les routes du Tour de France. On va écouter Christopher Froome tout à l'heure, évidemment, interrogé à l'issue de cette victoire à la planche des belles filles.
I'm really happy and I think the team is happy also.
Je suis vraiment content et je pense que mon équipe est contente aussi. À 400 mètres de l'arrivée, Cadel Evans était juste derrière moi. Je l'ai vu et j'ai pensé qu'il allait placer une attaque, mais il ne l'a pas fait. Il a accéléré un petit peu, mais la montée était très raide et il n'allait pas assez vite. Bradley Wiggins, lui, est dans une bonne position pour le classement général. Quand j'ai vu qu'il n'avait pas de soucis, j'ai accéléré et Cadel ne suivait pas. Donc c'est fantastique.
C'est fantastique pour lui,
c'est impressionnant.
En tous les cas, donc pour vous, ce sera pas le principal adversaire de Wiggins. Faut tout de suite couper l'herbe sous le pied. Tous ceux qui pensent qu'il pourrait jouer sa carte personnelle, ça se fait pas dans le tour. Il y a des règles à respecter, Lucho.
Non, mais c'est bien établi depuis le départ. C'est Bradley Wiggins, le leader pour la Sky sur le Tour de France, et voilà.
Ouais, alors je me fais l'avocat du diable. Si Froome réussit à devancer Wiggins dans toutes les arrivées en montagne, et on sait que c'est un redoutable coureur contre la montre aussi, et qu'est-ce qui va se passer? On va lui demander de
c'est que si le jour il y a Wiggins a une faille, parce que ça peut peut-être arriver, Froome se sent bien et il est là pour le classement général. Comment
c'est
ça va se passer?
C'est la route de secours.
Ouais, oui.
Il se frise à deux personnes dans les trois premiers, mais il se frise. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ils vont contrôler la course.
Non, bon, Wiggins
est le
passera.
Leader désigné, mais Froome peut pallier à une éventuelle défaillance de Wiggins.
Froome deviendra en position de leader qu'à partir du moment où Wiggins sera en difficulté. Tant que Wiggins sera dans la position où il est, je pense qu'en plus contre la montre après-demain, il va reprendre un peu de temps à Froome, même si Froome va très vite contre la montre, il va sans doute perdre pas loin d'une minute sur Wiggins. Donc Froome ne viendra que si Wiggins est en difficulté. Mais c'est pas rassurant pour Cadel Evans, hein, parce que Wiggins peut très bien aussi enterrer Evans et laisser partir Froome. Mais en aucun cas, Froome ne prendra délibérément sa chance sur ce Tour de France. C'est beaucoup trop dangereux pour lui.
Et Cyril, ce qui est inquiétant après cette journée, c'est de voir Evans esselé comme ça.
Oui, parce qu'il était
seul.
Il est tout seul.
Hein. Et le deuxième BMC, il est.
Ah, il
je le cherche.
Perpète.
Je le cherche. Il n'est pas dans
il
les 20 premiers.
Il est à perpète. Je l'ai cherché. Il n'est pas sur la première feuille.
Ouais. Et c'est pas ce qu'ils ont roulé.
Oui,
c'est ils ont roulé
sur Philippe Gilbert à 5 minutes 08.
Oui, voilà. C'est une gastro.
Ouais.
Alors, autre question. On est au soir de la 7e étape. Wiggins est déjà en jaune. Est-ce qu'il ne serait pas un petit peu trop tôt quand même pour prendre le maillot jaune? Parce qu'ils vont devoir maintenant, avec ses coéquipiers, supporter le poids de la course. On a vu que ça ne leur posait pas de problème aujourd'hui.
Pas de
mais
problème.
Bon, c'était une course de côte, on l'a répété. Hein, on n'est pas encore dans la haute montagne. Est-ce que c'est un peu tôt ou non?
Avec l'équipe qu'il a, non, ça lui permet de maîtriser toutes les situations. Son équipe est tellement puissante que qu'il ait le maillot ou pas, de toute façon. C'est lui qui aurait assuré le contrôle de la course.
Thierry est avec nous au 32-16, non pas Thierry Bourguignon.
Ah oui,
notre Thierry.
J'ai failli prendre la parole.
Tu la prendras tout à l'heure. Après l'autre Thierry. Salut Thierry.
Ouais, bonsoir messieurs.
Salut Thierry.
Thierry est notre.
Bonsoir.
Thierry, Luc. Je suis content de vous entendre. Moi, ça fait 2-3 ans que je supporte Bradley. Ça fait 2-3 ans qu'il tourne autour. L'an dernier, une chute malencontreuse, alors que je pense qu'il était dans un état de forme aussi pour gagner le tour. Je suis aussi content parce que je sais que Cyril émettait beaucoup de doutes sur les capacités de Bradley Wiggins à tenir 3 semaines de course. C'est pas encore fait, bien sûr, mais je crois qu'il est quand même sur de bons rails. Moi, quand j'ai vu la fin d'étape, là, aujourd'hui, je me rends compte que, il y a, comme le disait Fred en direct, ça rappelle beaucoup les grandes équipes de Armstrong. Hein. Je vois que Cadel Evans n'a personne avec lui, même si c'était sur une montée de 6 km, il se retrouve un petit peu esselé. Je vois vraiment pas ce qui peut, à part une chute ou un jour ou 200, qui peut venir les chatouiller. Ouais. Quoi. Le Cafrom aussi, enfin, moi ça me rappelle... étrangement un petit peu l'année où Bjarne Riis gagne le Tour avec Ulrich.
Ah non, non, pas équipe, ça, hein. Pas ça.
Non, je parle sportivement simplement. Oui. Hein, oui. Ulrich était là pour épauler Bjarne Riis, alors que je pense qu'il avait aussi les capacités d'être
le vainqueur du Tour, podium, ouais. 96.
Voilà, enfin moi je vois vraiment pas, il y a aucune ombre au tableau, aucun nuage dans leur ciel bleu. Je vois pas ce qui pourrait empêcher aujourd'hui Bradley Wiggins de remporter ce tour, bien mérité parce que ça fait un petit moment qu'il tourne autour et
qu'il tourne de loin quand même, il tourne de loin autour, hein, parce qu'il n'a jamais fait de grands résultats quand même sur le Tour de France, même s'il a réussi.
Le Tour de France, ouais. Non. Après j'aurais peut-être une question à poser à
Thierry. On va devoir faire court parce qu'on doit partir à la natation, donc une prochaine fois, vous n'hésitez pas, vous nous appelez même pendant le direct, mais on va partir à la natation, à la Croix-Catelan plus exactement, retrouver Julien Richard. On est à 3 semaines ou un peu plus maintenant, un peu moins du début des Jeux, et on va retrouver Camille Muffat dans l'eau. Julien Richard,
oui, hors de l'eau, elle vient de sortir à l'instant avec une victoire, encore une facile, 4 minutes 4 secondes 42 centièmes sur ce 400 mètres nage libre qu'elle disputera bien évidemment au jeu. Elle a la meilleure performance mondiale de l'année, elle est à 3 secondes hein, de son meilleur temps cette saison, mais c'est une belle performance dans une grosse période de travail. Elle nage beaucoup à l'entraînement en ce moment, c'était une dernière compétition de réglage, de préparation avant donc la préparation finale vers les Jeux, et Camille Muffat avance confiante, donc est favorite même de ce 400 mètres nage libre avec cette victoire. 4 minutes 4 secondes 42 centièmes donc pour la Niçoise.
Ah, elle est forte cette petite Niçoise. Merci Julien, à plus tard. Il y a d'autres courses dans la soirée hein.
Nage libre de folie, ouais, avec notamment Florent Manodou, Fred Bousquet, les deux beaux-frères. Alain Bernard aussi, sa dernière course individuelle de sa carrière tout court. Ouais. Et puis on a eu le 100 mètres d'eau de Laure Manodou. Hein, petite info, elle est à une seconde de son meilleur temps de l'année, 1:16, et elle est partie très déçue. Elle n'a pas souhaité s'expliquer et parler devant les médias, expliquer sa performance. Ce soir, pas une bonne nouvelle donc pour Laure Manodou à quelques jours maintenant des Jeux Olympiques.
Merci Julien, merci donc Camille Muffat, elle est en pleine forme. Et on va voir maintenant si les basketteurs français sont également en pleine forme. Alors les cyclistes anglais écrasent tout sur leur passage dans le Tour de France. Est-ce que les basketteurs anglais vont faire de même, Rodolphe?
Alors bonjour à tous. Je mettrai pas une pièce quand même sur l'équipe britannique pour un podium aux Jeux Olympiques. Mais toujours est-il que les Britanniques nous ont posé énormément de problèmes. Ça va un petit peu mieux pour l'équipe de France qui revient petit à petit dans la partie. Nous sommes au début du quatrième et dernier quart-temps. Encore 6 points d'avance hein, tout de même pour la Grande-Bretagne. 63 à 57. Mais les Anglais ont compté jusqu'à 20 points d'avance dans le deuxième carton. Ça va un petit peu mieux, notamment grâce à deux joueurs hein, en attaque, Kevin Serafin, le pivot, qui a enfin marqué 3 paniers de suite, et puis surtout grâce à Yacouba Diawara. Alors ça c'est quand même le comble de la journée, puisque Yacouba Diawara, eh bien, il a réussi plusieurs paniers de suite, dont 2 tirs à 3 points qui ont véritablement permis à l'équipe de France de respirer. Yacouba Diawara, eh bien, c'est l'un des joueurs qui n'ira pas aux Jeux Olympiques de Londres. Il n'est pas dans la liste des joueurs sélectionnés par l'entraîneur Vincent Collet. Une petite info sur Tony Parker, il est en bout de banc hein. Tony
Il a
Parker.
Des belles lunettes ou non?
Alors il a joué tout à l'heure les 5 premières minutes de ce match avec ses belles lunettes. On lui demandera justement à la fin de la partie quelles sont les sensations derrière ces verres. Et depuis il n'est pas rentré, c'est pas sûr qu'on le revoie sur le parquet cet après-midi. Il est installé en bout de banc aux côtés de Nando De Colo. L'équipe de France à l'attaque avec un contre sur Florent Pietrus. Le score 66 à 57 en faveur de la Grande-Bretagne. 9 points d'avance pour la Grande-Bretagne. Il reste 8 minutes à jouer.
Ah bah ça commence bien cette histoire-là. Merci Rodolphe, à tout à l'heure.
Tout à rien.
Retour ici donc à la planche, les belles filles, lieu d'arrivée de la 7ème étape du Tour de France remportée par Christopher Froome devant Cadel Evans. Alors vous m'avez enterré Cadel Evans là, tout le monde là, on va voir s'il est vraiment enterré, ce qu'en pensent ses supporters. Christian nous appelle au 32-16. Bonsoir Christian.
Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à toute l'équipe.
Bonsoir Christian. Alors mon cher Christian, je ne sais pas si vous avez entendu la Dream Team, pour eux c'est fini ou quasiment fini,
oui,
pour Cadel Evans.
Oui,
attends, tu rigoles ou quoi?
Bien sûr.
Hein, bah, alors qu'est-ce que vous en pensez?
Je suis tout à fait d'accord, parce que pour moi, Cadel Evans n'a pas été enterré. Il est resté au contact jusqu'au bout, bien sûr. Je trouve même que sa course est très intelligente, parce que maintenant, tout le poids va reporter sur les épaules de Wiggins, de l'équipe Sky. Cadel Evans, connaissant ses possibilités dans les chronos, Celui de lundi sera peut-être un peu limite, mais après dans les Pyrénées, et je vois très mal Wiggins passer très très bien les Pyrénées, puis il aura beaucoup moins à mon avis d'équipiers à ce moment-là, ils seront fatigués. Par contre, ceux de Cadel Evans, on les a pas vus jusqu'à 10 km de l'arrivée, je dirais. Moinard, Incapi, tout ça, on les verra dans les Pyrénées.
D'accord, voilà, qui est dit pour Christian, c'est simple. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Bon, Thierry, je sais que tu es un peu sceptique quand même sur Cadel Evans et sur les BMC. Lucho, par contre, lui, défend Cadel Evans, évidemment. Pour lui.
En plus, si je me permets. Ben Lucho, c'est un salut particulier à toi parce que je suis le cycliste, j'ai 57 ans, je suis le cycliste depuis très longtemps et j'étais fan de Lucho.
Ah bon, on en a trouvé un.
Merci.
On en a trouvé un. Il en reste un. Merci Christian, on va le chambrer un peu notre Lucho.
C'est son directeur sportif, j'espère.
Merci Christian.
Alors.
Ben oui, moi je reste calé jusqu'au bout du tour sur Cadel Evans.
Sur Cadel Evans,
bien sûr. Mais oui, c'est pas parce qu'il n'avait pas d'équipier dans la dernière montée aujourd'hui qu'il en aura pas dans les jours qui vont suivre.
On verra ça. Cyril, convaincu?
On dit pas qu'il est condamné, hein.
Ils l'ont joué.
Il n'est pas condamné. Le jugement, effectivement, n'est pas dans un premier temps très favorable. Ce que l'on dit, enfin du moins ce que je dis, c'est que il a pris un vrai coup
au moral.
Sur le plan psychologique aujourd'hui, quand il a pu constater la puissance de l'équipe Sky, et puis d'un seul coup de se retrouver non plus avec Wiggins, également avec Froome.
Voilà. John Lelang, son directeur sportif, ne dit pas du tout ça, mais on verra demain, on verra dans les jours qui viennent, parce que demain, il y a une autre étape de moyenne montagne qui attend le peloton du Tour de France et les principaux favoris. On va en parler d'ailleurs dans quelques instants, puisque nous allons parier sur l'étape de demain et voir à quoi ressemble ce profil de cette étape qui se terminera à Porrentruy, en Suisse. En tous les cas, on en parle dans quelques instants dans l'Intégral Tour jusqu'à 20h. À tout de suite.
RMC Intégral Tour. Christophe Cessieux.
Et avant les Jeux Olympiques, il y a évidemment le Tour de France, 99e édition de ce Tour de France. Nous sommes entrés dans le dur aujourd'hui avec la 7e étape et l'arrivée en montagne à la planche des belles filles, étape remportée donc par Christopher Froome, britannique de 27 ans, deuxième du dernier Tour d'Espagne, mais lieutenant de Bradley Wiggins. En tous les cas, les Sky sont très forts, on en a parlé, ils ont peut-être écrasé la course, on verra demain comment vont réagir ses adversaires, à commencer peut-être par Cadel Evans, dont on a parlé également. Alors, maintenant, on va s'intéresser, si vous le voulez bien, avant de passer au pari, on va s'intéresser aux Français, Cyril, Lucho et Thierry, parce que là aussi, c'est pas la soupe à la grimace, mais pas loin quand même. Mis à part... tu trouves que c'est pas mal. Mis à part Pierre Roland,
voilà,
qui termine 7e, alors qu'il était quand même, ce matin, on se demandait s'il allait prendre le départ, hein. 7e à 46 secondes, les autres sont beaucoup plus loin. Thibaut Pinot, le régional de l'étape, dont on espéré peut-être un peu mieux, termine 15e à 1 minute 24. Tony Galopin, lui, c'est pas mal quand même. 19e à 1:44. Thomas Vauclair, ça va mieux là aussi pour lui. 24e à 2:05. Et puis Sylvain Chavanel, qui était 3e au général ce matin, et 33e à 2 minutes 24. Sandy Cazard, 39e. Brice Feuillu, 43e. Lui aussi, il revient un peu dans la course. Quel bilan peut-on faire? Est-ce que vous êtes surpris des résultats des Français, agréablement, désagréablement? On va commencer par Cyril.
Il y a des choses satisfaisantes. D'abord, on retrouve Vauclair, ce qui veut dire que son genou va beaucoup mieux. S'il arrive à passer demain, plus le contre-la-montre, mais ça devrait le faire après-demain et l'étape de repos, je pense que Vauclair devrait pouvoir s'en sortir, je l'espère pour lui. On retrouve aussi Brice Feuillu, dont on attendait beaucoup dans les étapes de montagne, puisque là, il finit avec son leader, d'ailleurs, qui lui a beaucoup déçu. En revanche, Jérôme Coppel.
Ouais,
alors c'est vrai quand même que pour le classement général,
ouais,
Coppel et Jean-Christophe Perrault, là c'est la déception. Jean-Christophe Perrault finit à 4:07, Jérôme Coppel à 3:03, et je le disais avec Brice Feuillu, c'est bien pour Brice Feuillu, mais c'est quand même pas très bon pour Jérôme Coppel. Et puis dans les bonnes satisfactions pour demain, j'ai envie de dire Tony Galopin, qui sur cette ascension, en ayant énormément travaillé pour Frank Schleck, pour essayer qu'il perde le moins de temps possible. Donc Tony Galopin, et puis Thibaut Pinot, qui fait aussi une belle ascension. Il est un peu jeune sur ce tour, il manque encore un petit peu de puissance, même s'il connaissait très bien les routes.
Oui, bon, c'est pas parce qu'on les connaît 15e, que...
Vous savez, dans une explication au sommet
Avec tous les cadors.
Avec tous les cadors.
C'est déjà bien d'être 15e.
Pour un néo-pro de 22 ans, je trouve que ça le fait bien.
Voilà. Alors, évidemment, la satisfaction, c'est quand même Pierre Roland. On était très pessimiste pour lui hier soir. Il s'en est plutôt bien sorti. 7e de cette étape à 46 secondes. On va l'écouter tout de suite, Pierre Roland, interrogé par Pierre-Yves Leroux à l'issue de cette arrivée.
C'est une montée très particulière parce que c'est très court, très raide. Moi, on le sait que je suis grand et assez lourd pour un grimpeur, donc je préfère quand même quand c'est un peu plus long. Mais voilà, comme je l'ai dit, il faut faire avec le parcours qui est proposé. Et vu la pente et la montée, je suis vraiment satisfait de l'ascension que j'ai faite. Voilà.
Ouais. Il a raison d'être satisfait parce qu'il avait vraiment mal aux côtes hier, mal au coude également.
Vite fait, je pense que la soupe à la grimace, c'est plus Sorso Jassen ce soir qui risque.
Oui. Alors, pour revenir sur Pierre Roland, qu'est-ce qu'il peut espérer dans ce Tour de France maintenant, Lucho? Est-ce que d'abord peut-être encore essayer de récupérer et puis pourquoi pas dans une grande étape des
Déjà, il a bien récupéré par rapport à sa chute. Hein. Ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est quand même fort. Après, je pense que l'objectif de Pierre Roland, c'est pas forcément de rentrer dans les 10 premiers du Tour, c'est de gagner une étape, comme il a fait l'année dernière.
Les gens
se rappellent plus des vainqueurs d'étape que du coureur qui a fait 8e, 9e, 10e du classement général. D'accord. Voilà, donc ça marque plus. La victoire de Pierre Roland a marqué les esprits l'année dernière à l'Alpe d'Huez. Sa victoire.
Oui, mais elle avait amené d'autres espoirs peut-être pour Pierre Roland. Enfin, vu ce qui s'est passé.
Il y en aura toujours pour lui, ceci dit.
Thierry, qu'est-ce qu'il faut.
Je pense qu'il va viser une étape, voire deux, mais
commençons par une.
Ce qui visait au départ du tour, c'était quand même le maillot à poids et une étape. Donc il est toujours dans les cordes.
Il est toujours dans les cordes. Le maillot à poids, il n'est pas donné encore.
Après, s'il a encore une chance de gagner une grande étape de montagne, il marquera beaucoup de points et il se replacera dans le meilleur grimpeur.
Ouais.
Voilà, c'est tout.
Cyril,
Pense que pour le classement général, sachant que après-demain il va perdre à peu près 3 minutes voire plus, il va se retrouver pratiquement à 7 minutes au classement général. Ça va lui donner des ouvertures pour partir effectivement sur des raids et aller capitaliser éventuellement des points. Mais je suis pas sûr, moi, que Fromm il s'attache pas à son petit maillot.
Peut-être, ça peut être un lot de consolation.
Tu crois qu'ils vont pouvoir tout aller chercher maillot grimpeur
Il passera toujours en tête du groupe. Hein.
Oui, voilà, ça se fera tout seul parce que en roulant pour Wiggins, il marquera des points forcément.
Messieurs, on va s'arrêter là pour nos débats dans quelques instants au Paris. Tout d'abord, on va jouer.
Les opticiens Vision Plus vous offrent vos lunettes de soleil Tour de France sur RMC.
Comme tous les soirs, on vous offre 5 paires de lunettes de soleil Tour de France. Pour gagner, il faut répondre à la question suivante. Quel coureur a terminé premier français lors de l'étape du jour à la planche des belles filles? Si vous pensez que la bonne réponse est Pierre Roland, vous envoyez A par SMS au 7-32-16. Et si vous pensez que la bonne réponse est Thibaut Pinot, et vous envoyez B par SMS au 7-32-16. Bonne chance, on continue à jouer, mais cette fois, on va parier.
PMU.fr, Paris sportif, Paris hippique, poker.
Et on accueille Benji, évidemment, pour parier comme tous les soirs. Salut Benji.
Salut messieurs.
Salut Benji.
Le bilan de la journée. Personne n'avait donné Christopher Froome. Hein, là, chou blanc, ça fait deux jours quand même. Hein,
Moi, j'ai joué une Lucho aujourd'hui.
Il faudrait pas que ça arrive tous les jours.
Ça arrive tous les jours. Hein. Ça fait deux jours de suite quand même.
On a peut-être besoin d'une étape de repos.
Il n'y a que Froome qui me fait marron. Hein.
Froome quand même.
Oui, il fait marron. Mais tu prends des points quand même. Il prend des points.
Oui, pas vraiment marron, Cyril Guimard, puisque Cyril. Comme d'habitude, prend le jaune, le vert également, et puis comme c'était la première étape avec des sommets de difficulté,
il prend aussi
le maillot à poids. Cyril, laisse un peu aux autres s'il te plaît.
Oui. Non, mais ça, tu sais, le druide n'est pas partageur.
Moi, j'avais un modèle quand je courais, c'était le cannibale.
Le cannibale, parlons-en. Il t'en veut un peu, mon petit coureur.
Alors, Benji, les cotes pour demain, on prend les mêmes, on recommence pour les meilleures cotes. Je pense que Christopher Froome va faire son entrée dans les cotes basses.
Et pas vraiment, puisque Christopher Froome est largement derrière tout le monde. Le favori, Christophe Cocorico, c'est un Français, c'est Thomas Vauquier. Vauclair. La cote est à 11 pour la victoire de Thomas Vauclair. Alors pourquoi il est favori, je ne sais pas, mais en tout cas c'est bien Thomas Vauclair le favori pour pour demain.
D'avoir un compte en Suisse.
Oui, voilà, c'est ça.
Un compte en Suisse, je pense.
Et moi, pour la belle histoire et puis pour la cote aussi, je vais donner cote de 20 Johnny Hoogerland.
C'est quoi les cotes des principaux favoris, donc à part Vauclair et.
Alors, Vauclair en numéro 1, cote de 11. Juste derrière, encore un Français, puisque avec une cote de 12, juste derrière Thomas Vauclair, c'est Sylvain Chavanel, Christophe, pour remporter cette étape. Donc, deux Français aux deux premières places.
D'accord. Alors, messieurs, vos favoris, on va répondre assez rapidement. Cyril, tu as là aussi plein de documentation nous indiquant que tu veux nous sortir le bon nom. On va suivre ta roue.
Ben, écoutez, moi, j'ai Valverde, mais Valverde, il a plus que trois équipiers, puisqu'il a pas mal de monde qui est passé par la fenêtre. Et puis.
Allez.
On n'a plus qu'une minute pour donner tout
Vandenbroek.
Vandenbroek qui était le favori de Benji aujourd'hui, qui a crevé malheureusement, qui n'a pas pu rentrer.
Et toi, Thierry? Il est à 45.
Thierry.
Et Thierry?
Moi?
Oui, toi.
Bah, je vais jouer encore un coup de poker. Et il me faut rentrer beaucoup d'argent. Je pense que ça va partir de loin. Un petit jeune, je sais pas pourquoi, tu vois, je le sens bien.
On dépêche-toi, il y a
un petit
ans.
À Arthur Vichot.
Arthur Vichot. Oui. D'accord.
Alors, qui a gagné une étape au Dauphiné.
Alors, moi, si je gagne demain, je crois que j'ai gagné le général.
Allez, vas-y, donne-nous ça.
Alors, un Espagnol, Euskaltel. Azanza Jorg.
Ah oui, d'accord. Ouais, tu nous sors des noms improbables à la Fred Adam. Moi, je vais donner Thibaut Pinot pour demain, tiens. Voilà. Parce qu'il sera encore un peu sur ses terres.
Je suis sûr qu'il y aura un Euskaltel devant moi demain.
Et qu'on sait jamais, il sera peut-être dans le coup demain pour tenter le coup.
Alors,
Azanza, il est à 75 et Thibaut Pinot, il est à 115. Donc,
Et Vichot.
Je suis pas naze. Hein.
Vichot, il est à 60, je t'ai dit.
Excuse-moi, j'avais pas encore.
Il n'y a pas de souci.
Eh bien, nous verrons demain. Nous verrons demain si tout ça a été bien vu de la part de la Dream Team. Merci, Benji.
Bonne soirée à tous.
À demain à partir de 15h40 pour Paris.
Salut.
PMU.fr, Paris sportif, Paris hippique, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Un petit mot quand même sur l'étape de demain, puisque c'est la minute de Dédé qui est là avec nous.
La fin de journée. Il va avoir de la douleur demain.
Ah oui, le passage, la côte du passage de la douleur. Là, ça fout la trouille.
Il va avoir de la douleur.
Et le col de la croix pour le calvaire.
Et puis, Saigne-Légier.
Oui.
Saigne-Léger, pas trop quoi. Dédé,
ouais,
demain c'est beau, c'est chaud,
c'est court et c'est rugueux.
Oh là là.
Au revoir.
Voilà.
C'est une étape en forme de montagne russe avec un certain nombre de cols et de côtes qui seront assez importants puisqu'on en a 6 plus 1, 6 côtes et un col, les côtes 4e, 3e et 2e catégorie en progression pendant toute la journée pour aboutir au morceau de choix, on va dire le dessert qui est à 15 km de l'arrivée, le col de la Croix qui est assez délicat puisque c'est une montée qui est assez courte, 3,7 km mais avec 9,2% de moyenne et des tronçons qui vont monter bien au-delà puisqu'on a un morceau tout en haut qui doit être aux alentours de 17% si je ne m'abuse.
Ouais, c'est quand même pas
rigolo. La fin est dure, c'est pour ça que j'ai que c'était rugueux. Hein.
Ils vont encore le prendre dans le front.
Quand on a vu ce qu'ils ont pris dans le front ce soir, on est sur des pourcentages un petit peu plus faibles.
Les Vosges, c'est pas des longues montées, mais elles sont raides.
Ouais,
d'accord. Des dangers particuliers rapidement.
Les dangers, ce sont les descentes, puisque qui dit montée dit descente, et derrière, il faut faire attention à la route qui risque de se dégrader un petit peu, surtout s'il fait chaud. Le temps est prévu aussi au beau fixe, donc il faudra faire attention à ça. La balayeuse des Vosges sera là également.
La balayeuse des Vosges et la balayeuse suisse. Est-ce que tu vas mettre une petite croix blanche sur fond rouge sur ta balayeuse, sur ton gros Léon?
Je vais pas le dire trop fort parce que les Vosges, c'est pas très loin d'ici. entendre, ils vont pas vouloir.
D'accord.
Mais elle sera là, la balayeuse, pour veiller au grain et chasser le gravier.
Merci, monsieur Dédé de l'Assemblée des départements. Avant de nous séparer, on va faire un nouveau détour par le basket avec Rodolphe Massé. France, Grande-Bretagne, en vélo, les Anglais mènent. Qu'en est-il en basket, Rodolphe ?
Eh bien, en basket, les Français sont repassés devant à 41 secondes de la fin du match. 74 à 71 pour l'équipe de France après deux lancers francs réussis par Flo Pietrus. L'équipe de France qui a su recoller au score et passer devant juste dans le money time. Reste à tenir cette avance de 3 points dans les 30 dernières secondes.
Merci Rodolphe, à tout à l'heure pour le résultat final de ce match. J-20 si j'ai bien compté, Céline, c'est
et
ça.
Et vous comptez bien, Christophe.
On s'en rapproche,
s'en rapproche. Merci Christophe, à bientôt.
À demain.
Et tout de suite, bien sûr, Before London, du basket, vous l'avez entendu, du hand, de la natation, chrono décevant pour Laure Manaudou. Et puis, invité Bertrand Gilles et Alison Pinault. À tout de suite.